Amen. Le Seigneur, il est merveilleux. Il est merveilleux. Donc, il nous a réunis encore. Amen. Il nous a réunis encore pour entendre le conseil de Dieu, pour entendre son conseil et aussi pour la communion fraternelle entre nous. Amen. Pour la communion avec les frères et sœurs. Un jour, on a vu ça, on n'a pas développé ça. On a vu que ce qui fait la force est d'un chrétien. On étudiera ça certainement un jour quand le Seigneur montrera que c'est le sujet. On a vu que ce qui fait la force est d'un chrétien. Amen. On a vu que ce qui fait la force est d'un chrétien pour marcher avec Dieu. On a vu que c'est la connaissance de la parole de Dieu, premièrement. Deuxièmement, on a vu que c'est la communion fraternelle. Amen. Et troisièmement, on a vu que c'est le caractère. C'est ça qui fait qu'un chrétien soit fort et soit vainqueur. Amen. Et dans toutes les circonstances. Aujourd'hui, on va continuer à étudier sur les plans de Dieu. Sur les plans de Dieu pour nous. Nous savons Dieu qui se rappelle du sujet du premier dimanche concernant les plans de Dieu. Colossiens 3:16. On a lu ça. Tout est créé par lui et pour. Amen. Tout est créé par lui et pour. Amen. Tout est créé par lui et pour lui. Et on a vu aussi, donc c'était, je fais un petit rappel, on a vu qu'on n'est pas là par hasard. Amen. On a vu qu'on n'est pas là par hasard, qu'il nous a créés, qu'il avait réfléchi, qu'il nous connaissait avant même de nous mettre dans les ventres de nos mamans. Donc il nous connaissait et qu'il avait des pensées et qu'il avait des plans pour nous, pour chacun de nous. Amen. On a vu que c'est pour ça que les personnes qui ne sont pas vraiment dans les plans de Dieu, qui ne sont pas avec Dieu, c'est des personnes sans but. Ils n'ont pas de but, ils existent. Amen. Ils existent, mais ils n'ont pas de but pour la vie. Ils mangent, ils buvent, ils pensent que demain ils mourront et c'est fini. Mais ce n'est pas ça. La vie, l'homme est un être éternel qui vit éternellement. Une fois que Dieu a créé une personne, cette personne va vivre éternellement. Elle va peut-être quitter son corps, cette terre, mais la personne demeure. Parce que la vraie personne, c'est celui qui habite dans ton corps. Amen. La vraie personne, c'est toi qui habites dans son corps et qui possède une âme. Donc si cette personne part, elle va aller quelque part, mais elle continuera à vivre éternellement. Soit avec Dieu dans la joie éternelle, soit séparée de Dieu, ce qu'on appelle la mort éternelle. La mort éternelle, c'est être séparé de Dieu éternellement, c'est mourir sans Dieu dans sa vie. Et c'est, la Bible dit, Jésus l'a dit, maintes fois pour nous avertir, que sans Dieu, la séparation de Dieu éternelle, c'est une souffrance éternelle. Amen. Que chacun dise, non, je ne souffrirai pas éternellement. Non, amen. Amen. Chacun dise, j'ai Dieu dans ma vie. Amen. Donc, on va continuer par comme rappel, on a vu que Dieu, nous avons tous nos définitions concernant la vie. Il y a des gens qui définissent la vie comme la fête. Alors, ils vont passer leur temps à fêter, leur vie à fêter. Il y a d'autres qui pensent que la vie, c'est peut-être travailler dur, récolter dur. Ils vont passer leur vie à travailler dur et à récolter. Donc, on vit notre vie selon comment on la pense. Amen. Comment on la pense. Et on a vu que Dieu définit la vie comme, certes, un passage sur cette terre, mais cette vie détermine notre position éternelle. Amen. Cette vie aujourd'hui, elle détermine la position que nous avons dans l'éternité. C'est comme un parent qui envoie un enfant à l'école. Une fois l'école finie, l'enfant devra trouver un travail. Amen. Donc la vie, c'est comme ça. Nous sommes en préparation de notre éternité. Amen. J'entends pas les amens. Est-ce que quelqu'un entend? Amen. Amen. Donc nous sommes à préparer notre éternité. La vraie vie, c'est celle que nous allons passer dans l'éternité, sachant que la vie que nous avons, même si nous durons 120 ans, c'est comme une goutte d'eau par rapport à l'éternité. Amen. Donc nous sommes là pour préparer notre éternité. Et Dieu pense que la vie est un test, donc un examen. Un examen. Si nous réussissons, un examen, si nous réussissons un examen aujourd'hui, il donne un autre demain pour nous faire monter de grade plus haut. Amen. Et ça va déterminer notre position. Donc, si vous rencontrez un problème, si vous vivez des circonstances difficiles, sache que Dieu pense que c'est un test. Et il regarde nos réactions et il nous envoie le Saint-Esprit pour nous aider et pour s'en sortir avec les conseils divins. Amen. Donc, c'est un test. Et c'est aussi une responsabilité. Dieu nous a créés pour ne pas négliger la vie. Amen. C'est une responsabilité. Il nous a créés pour que sa gloire nous habite. C'est quand sa gloire nous habite que nous sommes vainqueurs. Aujourd'hui, on va voir que Dieu est un Dieu de famille. Amen. Amen. Que Dieu est un Dieu de famille. Quand nous naissons dans le naturel, Dieu s'est arrangé que nous naissions dans une famille. Amen. Personne n'est né dans l'air, je veux dire. Il y a toujours un papa et une maman. Donc, c'est une famille. Et Dieu, dans le monde spirituel, s'est aussi arrangé de ce que tu es, tu sois dans une famille spirituelle. Amen. La naissance naturelle nous met dans une famille naturelle, mais la naissance spirituelle nous met dans une famille spirituelle aussi. Amen. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va découvrir, que nous sommes dans une famille spirituelle, qui n'est pas moins négligeable. Amen. Amen. Qui n'est pas négligeable par rapport à notre relation avec Dieu. Nous sommes dans une famille spirituelle. On va lire ça. Donc, dans notre famille naturelle, il y a des autorités. Il y a un papa qui est l'autorité. Il y a une maman qui est la deuxième autorité. Il y a les enfants. Donc, c'est une famille. Il y a... Vous savez, la Bible dit qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Ça ne veut pas dire que, par exemple, disons, quel exemple je donnerais? Disons les tyrans, par exemple, les présidents qui ont tyrannisé les pays, ceux qui ont tué, parlons d'Hitler, hein? Parlons par exemple de Mussolini, ou d'autres personnes qui ont vraiment tyrannisé les peuples. Ceux qui ont tué, ça ne veut pas dire que Dieu les a envoyés pour tuer. Amen. Parce que Dieu n'envoie pas pour tuer son peuple. Mais ça veut dire tout simplement que les systèmes d'autorité ont été mis là par Dieu. C'est Dieu qui a institué le système d'autorité. Maintenant, Dieu, il peut mettre une bonne personne si le peuple de Dieu prend sa place. Amen. Si le peuple de Dieu prie pour son pays, pour ses autorités, comme nous dit la Bible, Dieu ne va pas mettre un tyran. Mais si le peuple de Dieu ne fait pas son devoir et ne fait pas son travail, le diable, il va y mettre son homme. Amen. Donc, vous comprenez, c'est seulement le système d'autorité que Dieu a mis là. Et le système d'autorité, c'est pour que Dieu puisse régner tranquillement. Amen. Sans les esprits de rébellion. On va lire une loi, quelque chose que Dieu va vraiment, qui va déterminer le jugement de Dieu, amen, concernant le monde. Peut-être on n'a pas ouvert les yeux sur ça, mais c'est très important. Lisons en Corinthiens. Bon, ça serait bien de commencer par Matthieu, hein. Prenons Matthieu. Matthieu, chapitre 25. Dieu, il a écrit sa parole pour que nous la comprenions, pour que nous la vivions. Sinon, nous allons vivre les paroles du monde qui sont les mensonges et nous allons vivre les paroles du monde. Et nous allons vivre la vie du monde et le mensonge ne va pas nous aider du tout. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31. Vous savez, Dieu nous donne l'image, hein, ce jour-là, comment il va juger. Comment il va juger? À partir du verset 31 au verset 46. Amen. On va voir comment il va juger. Il dit, Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il parle de lui-même, quand il reviendra, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boeufs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Car, on va bien voir ce que nous avons fait, hein. « Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. » J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ces plus petits de mes frères, parlant de ces hommes, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu et à faim et ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes iront à la vie éternelle. Amen. Alors, on voit que Jésus va juger les gens selon comment ils ont traité les autres. Amen. Selon comment ils ont traité les autres. Des fois, on se dit, c'est vrai. On voit que la vie chrétienne, la vie avec Dieu, tourne autour d'un seul verbe. Qui c'est qui peut le trouver? Amen. Aimer, amour, que chacun dise amour. Dieu va juger selon l'amour que nous avons pour notre prochain. C'est le premier commandement là. Tu aimeras ton Dieu comme toi-même et tu aimes plus que toi et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Donc, Dieu va juger selon l'amour. Tout ce que nous pouvons faire, même les plus grands exploits. Est-ce qu'on peut lire ça? On peut lire ça dans 1 Corinthiens, chapitre 13. Parce que Dieu l'a révélé à l'apôtre Paul. 1 Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens, chapitre 13. Donc, Dieu, il a révélé à Paul que même s'il ressuscitait les malades, qu'il faisait des miracles, qu'il faisait de grandes choses, s'il n'avait pas l'amour, Dieu ne va pas compter ça. Amen. On va lire ça. Parce que Dieu va nous juger selon l'amour que nous avons. Et Dieu, il sait que la première chose que le diable nous a volée, c'est l'amour. Dieu, il le sait. D'où la raison de Dieu de nous ramener dans sa maison pour nous apprendre à aimer. Amen. pour nous restaurer dans l'amour. Parce qu'on a été, le diable nous a volé l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13. Hein? Amen. Alors, on va commencer par le verset 13, le verset 1. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est-à-dire qu'on peut avoir la foi, que Dieu est bon, transporter la montagne, faire des miracles, mais sans amour. Et on n'est rien. Amen. Dieu, tout ce qu'il va juger, c'est par l'amour. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Amen. Cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est point vieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point de son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, etc., etc. Amen. Donc, tout ce qu'on pourra faire, si même on vient à l'église, si on loue et si on adore avec nos bouches, si nous n'avons pas l'amour, ça ne veut rien dire. Amen. Ça ne veut rien dire. Et on va voir pourquoi Dieu veut nous restaurer dans l'amour. Parce que l'amour, là où il y a l'amour, on commence à voir les miracles. On commence à voir les infirmes qui se lèvent. Là où il y a l'amour, on voit la compassion. Là où il y a l'amour, on commence à voir l'esprit divin d'amour se manifester. Amen. Se manifester dans le cœur. Alors, Dieu nous a ramenés, parce que ce qui compte le plus pour lui, c'est l'amour. Et un des objectifs de Dieu pour nous mettre dans une famille spirituelle, c'est de restaurer l'amour qui a été volé par le diable. C'est de restaurer l'amour. La relation avec Christ est personnelle, certes, elle est personnelle, à 100% personnelle, mais elle n'est pas privée. Amen. Elle est personnelle, mais elle n'est vraiment pas privée. La relation avec Dieu est personnelle, mais Dieu nous impose d'autres avec. Amen. Pour voir comment nous exerçons cet amour avec eux. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Ce qui n'est pas toujours simple. Parce que le diable nous a volé l'amour et nous a volé la sagesse d'aimer. Mais Dieu est là pour nous restaurer. Que chacun dise, il est là pour me restaurer. Amen.
Il est là pour me restaurer.
Amen. Alors, l'organe pour nous restaurer, comme nous le savons, et que le diable combat beaucoup, c'est l'Église. C'est là où nous allons apprendre à aimer d'une manière désintéressée. Amen. D'une manière désintéressée. Parce que nous allons rencontrer des gens ordinaires et imparfaits. Amen. Amen. Nous allons rencontrer des gens ordinaires et imparfaits. Et donc, on va les apprendre à les aimer d'une manière désintéressée. Parce que Dieu veut nous apprendre à aimer. Amen. Dieu veut nous apprendre à aimer. C'est-à-dire qu'une fois que nous venons à Dieu, il fait de nous ses disciples. Un disciple, c'est celui qui apprend à faire comme son maître. C'est celui qui apprend à vivre comme son maître. C'est celui qui prend les enseignements du maître et se les approprie. Amen. Donc, il veut que nous soyons ses disciples. Comme il a dit, tout le monde saura que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Parce qu'il savait que c'est la chose la plus difficile. Parce que nous sommes habitués à aimer. Voilà comment le diable il a détourné notre amour. Nous aimons par intérêt. Voilà. Donc il a détourné. Nous aimons par intérêt. Mais Dieu veut qu'on aime d'une manière désintéressée. Amen. D'une manière désintéressée. Et c'est là qu'il va nous faire grandir dans l'amour. Donc il met dans cette famille. Et ce qu'il veut aussi, quand nous nous aimons, quand il veut nous aimer, qu'on s'aime d'une manière désintéressée, c'est parce que la famille est spirituelle. Nous avons un lien qui est indestructible, qui est notre nouvelle naissance. Nous avons un même papa, un même père. Amen. Nous avons un même père. Et une fois que nous avons un même père, c'est comme tout parent normal, il veut que ses enfants s'entendent. Amen. Tout parent normal veut que tous les enfants s'entendent, ses enfants. Il veut que ses enfants vivent dans la paix. Et Dieu, c'est pareil, il veut que ses enfants s'entendent. Et l'église locale n'est pas choisie par Dieu par hasard. Vous savez, vous pouvez faire 10 églises et vous attacher à une. Vous attachez à une alors que dans la même région il y a 10 églises. Parce que Dieu vous a appelé dans cette église-là, dans cette église locale, là-bas, pour être, s'il choisit que cette église locale est par exemple l'œil, tu vas faire un air pour voir, un air. Donc tu vas composer les parties de cet œil. Parce qu'il veut les nerfs. Donc il va, parce qu'il veut, il veut que tu sois une partie de cet œil. Et une fois que tu es une partie de cet œil, donc tu vas participer au fonctionnement de la vue. Si l'église de, je dirais, de Rennes ou à Nantes est en pied, par exemple. Ceux qui sont dans cette église vont composer son pied. Amen. Et si moi qui fais partie de l'œil, je vais essayer de marcher à la place du pied, ça ne va pas marcher. Je vais tomber ou alors je vais être écrasée. C'est important de comprendre. Amen. Donc, c'est pour ça qu'une fois que Dieu vous a mis dans le corps de Christ, c'est toutes les églises. C'est tous les chrétiens nés de nouveau. Amen. Ça, c'est le corps de Christ. Mais l'église, les églises locales, c'est des parties du corps de Christ. Et chaque partie a son fonctionnement. Amen. Et chaque partie a sa façon de fonctionner. Et si, par exemple, je suis dans cette église ici, bon, on prend notre cas, si je suis dans cette église ici, Dieu me met des frères et des sœurs parce qu'il me connaît dès ma naissance. Des frères et des sœurs susceptibles de m'encourager. Amen. De m'encourager pour ma relation avec Dieu. On va lire ça dans Hébreux, chapitre 13. Hébreux chapitre 3, verset 13. On va lire ça. Dieu nous met dans une église pour nous faire grandir dans la foi, pour nous faire encourager les uns les autres. Parce que c'est une famille. Hébreux chapitre 3, verset 13. Alors, il est écrit, « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Exhortez-vous les uns les autres. Vous savez qu'il y a des choses que, par exemple, Régine connaît, que Céline ne connaît pas. Parce que ça a été révélé dans le cœur de Régine. Alors, comment exhorter si Régine voit que Céline ne connaît pas et que par son attitude, et Céline ne connaît pas, Régine va lui dire, tu sais que selon ce que je reçois, ça c'est pas bon ou c'est bon. Donc, d'encourager la personne pour grandir. Donc, Dieu nous met ensemble et nous dit de nous encourager les uns les autres. Amen. De nous encourager les uns les autres. Parce qu'on reçoit tous de Dieu, mais on ne reçoit pas tous les mêmes choses ni en même temps. Amen. Donc, on peut s'encourager les uns les autres et ça nous fait grandir dans la foi. ça nous fait grandir dans la foi. Et aussi, il est écrit que si quelqu'un s'est égaré loin de la voie de Dieu et qu'un autre lui ramène, hein, donc il amène la personne sur la bonne voie. Sur la bonne voie. C'est pour la communion fraternelle, c'est pour nous fortifier à grandir dans la foi. Il y a aussi une protection dans l'Église, ce qu'on appelle, on peut lire ça déjà. On peut lire ça. On peut lire ça dans Actes. On va voir comment Dieu il a donné une certaine protection. On a trois passages, donc je vais vous les laisser lire. Actes chapitre 2, verset 28 et verset 29. Alors, je vais peut-être vous dire un secret. C'est-à-dire que les gens qui prient personnellement chez eux, des fois, ils prient pour les frères et les sœurs. Ils prient pour les frères et les sœurs. Mais ils ne prieront pas pour toi s'ils ne t'ont pas vu à l'église. Vous comprenez ce que je veux dire? La protection qui est sur l'église. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vivent une communion avec le Seigneur et qui sont à prier chez eux alors qu'ils se mettent à nommer ton nom, par exemple, devant Dieu. Donc, à intercéder pour toi. Amen. Amen. Mais s'ils ne te connaissent pas, s'ils ne t'ont même pas vu à l'église, ils ne vont peut-être pas penser à prier pour ça. Mais parce que vous avez un lien, parce qu'ils vous ont vu, parce que vous avez des contacts, ils se mettent à prier. Amen. Pour toi. Amen. Donc, Actes chapitre 20, verset 28 au verset 29. Tu as trouvé, Céline?
Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau.
Amen. 1 Pierre 5, dans Ea 4.
Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, laissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire.
Donc, on va lire aussi Hébreux chapitre 13, verset 17. Hébreux chapitre 13, verset 17.
Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage.
Amen. Amen. Donc, on voit que dans une église, Dieu il a établi une certaine protection parce qu'il a appelé des personnes qui veillent. Amen. Qui veillent sur vos âmes. Qui veille. Et moi, je sais, et c'est pareil pour tout le monde, je sais que Dieu, quand il a mis une personne dans l'église, je sais que cette personne va bénéficier tous les jours des prières du responsable. Amen. Je le sais par expérience, et je pense que aussi pour les autres, c'est pareil. Donc, il nous a donné une responsabilité de veiller et de prier. Et nous savons que Dieu exauce. Amen. Il a donné une responsabilité. Et donc Dieu nous encourage à le faire, non à gémissant. Il encourage aussi les chrétiens à ne pas être des soucis par rapport aux appels, à ne pas être des causes de soucis, de tristesse. Pour ne pas le faire en gémissant. Amen. Mais il nous encourage, il y a une sorte de protection, parce que Dieu a dit de veiller. Amen. Il n'a pas dit de veiller pour rien faire, mais il a dit de veiller parce qu'il veut faire quelque chose. Amen. Donc, c'est pour ça. que l'église locale, les personnes qui sont vraiment dans l'église locale, entrent facilement dans les plans de Dieu. Amen. Entrent facilement dans les plans de Dieu. Donc, pourquoi Dieu nous a voulu pour nous une église locale, selon qu'il est dit qu'il est doux et agréable que les frères soient réunis ensemble? Pourquoi Dieu l'a-t-il voulu? Parce que la Bible dit que l'église est l'appui et la colonne de la vérité. Il veut que les chrétiens soient des exemples, certes, mais il veut d'abord, premièrement, nous donner un but. Un but pour notre vie. On va voir ce que c'est ce but. Et il veut aussi nous donner des amis, des bons amis. Comme il dit, les mauvaises compagnies auront les bonnes mœurs. Amen. Le Dieu veut nous donner des bons amis. Et les bons amis, on les trouvera dans l'église. Parce que nous avons les mêmes valeurs. Amen. Nous avons les mêmes valeurs. Parce que Dieu, on va voir comment Dieu voit l'amitié. Nous avons l'habitude d'avoir des amis, mais d'une manière superficielle. Je n'entre pas dans sa vie, il n'entre pas dans la mienne. Donc, on a l'habitude d'avoir des amis, mais vraiment très superficiels, parce qu'on est garant. On ne veut pas blesser. On ne veut pas... En fait, on met un masque. On n'est pas les mêmes personnes devant quelqu'un que quand on est seul. Donc, on met un masque, en fait. On n'est pas les mêmes personnes. Mais les amitiés, selon Dieu, c'est que vraiment nous dominions ce que nous sommes. Que ce soit seul ou avec les autres. Et nous savons que seuls, les chrétiens vont comprendre nos faiblesses parce qu'ils connaissent la nature humaine. Un païen, il va peut-être crier sur tous les toits ce que tu as fait ce matin. Mais un chrétien ne va pas le faire, il va prier. Si c'est un bon chrétien. Amen. Amen. Il va prier pour son frère. Pour que la personne... Donc c'est des bons amis, on va vraiment les trouver dans l'église. Si la personne marche bien avec Dieu. Et c'est un endroit où il veut qu'on exerce nos dons. Dieu veut qu'on exerce nos dons. C'est pour ça qu'il nous a créé un cadre pour exercer nos dons. Amen. Nous avons beaucoup de dons qui sont différents les uns des autres. Et c'est à l'église qu'on va... Je ne parlais pas des dons spirituels. Ça, certainement, on va le faire dans l'église. Le neuf dons spirituels, je ne parle pas de ça. Je parle des capacités qu'il nous a données. Amen. Des capacités qu'il nous a données. On peut les mettre au service des autres. Nous savons que nous vivons pour Dieu et nous savons que nous serons jugés par ce que nous aurons fait pour les autres. Amen. Donc, il veut que nous ayons des opportunités de faire quelque chose pour notre prochain. Amen. Oh, ça nous emballe pas trop faire quelque chose pour mon prochain. Je veux plutôt qu'on m'occupe de moi. N'est-ce pas? On veut plutôt qu'on s'occupe de nous. Nous, Seigneur, ça m'emballe pas de faire quelque chose pour mon prochain. Il y en a qui pensent comme ça. On veut se repartir. Amen. Donc, Dieu veut qu'au moins nous fassions quelque chose pour notre prochain. Par l'amour. Et c'est cela qui va déterminer notre position. Là-haut. Amen. Dieu veut qu'au moins tu fasses quelque chose pour ton prochain. Et à l'église, tu vas avoir plein d'occasions de faire quelque chose pour ton prochain. Amen. À l'église, plein d'occasions. Même si tu vois... Parce que tu veux, tu peux au moins aller rendre visite à un frère ou une sœur et prier avec la personne. Amen. Donc, dans l'église, Dieu nous a dit que nous sommes riches parce que nous pouvons donner. Nous n'avons pas besoin d'argent pour donner. C'est notre propre personne. Ce qu'on fait pour notre prochain. Amen. Ce qu'on fait pour notre prochain. Donc, c'est dans l'église. Dieu veut nous donner l'occasion de montrer notre amour. Et donc, d'être béni en retour. Et il nous aide. Dieu nous aide, en fait, à nous décentrer sur nous-mêmes. Vous savez ce que le diable a fait quand il a fait tomber Adam? Quand Adam a chuté, il a fait de lui un être égoïste. Et Dieu veut que nous nous décentrions sur nous-mêmes pour nous centrer d'abord sur lui en adoration et aussi sur lui en donnant aux autres. Parce qu'il sait que ça va nous bénir. Amen. Il sait que ça va nous bénir. Donc Dieu veut nous décentrer sur nous-mêmes en nous mettant dans une église locale. Et il veut que nous soyons vraiment formés comme des disciples. Et il veut que nos talents soient donnés, nos dons soient donnés aux autres. Il nous a donné beaucoup. On avait vu un jour, je ne sais plus si c'était le deuxième ou troisième enseignement, que tout ce que nous sommes et que tout ce que nous avons, ça s'appelle des talents, ça s'appelle un investissement pour Dieu. Amen. Et quand nous nous occupons à bien gérer ce qu'il nous a donné, il nous bénit en retour. Et Dieu nous met dans l'église pour une grande mission qui s'appelle l'évangélisation. Alors là, on va être rémunéré au centuple. On fait ça par amour. Mais pourquoi est-ce qu'il nous met dans l'église? Parce qu'il sait que l'union fait la force. Amen. L'union fait la force. C'est-à-dire que Dieu, lui, il a une course de racheter les perdus aujourd'hui pour les amener dans le royaume de Dieu. Et la grande mission qu'il a donnée à l'église, c'est l'évangélisation pour ramener les âmes au Seigneur. Et une fois que tu es dans une église locale, tout le prix, tout ce que l'église va faire, c'est inscrit dans tes récompenses. Mais si tu es engagé. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas engagés, qui ne s'engagent nulle part, qui, on appelle ça les chrétiens bourdons. Qu'est-ce que c'est? Qui vont d'église en église, de groupe en groupe, de réunion en réunion, mais qui sont engagés nulle part. Donc ils ne vont rien récolter. Mais ceux qui sont engagés dans une église, toutes les récompenses de cette église sont sur leur tête. Amen. C'est important de comprendre qu'une fois qu'on est un chrétien engagé, nous sommes en train de participer à l'évangélisation. Rien que la présence de cette église ou d'une église dans une région, ça change l'atmosphère spirituelle. Et ça évite beaucoup de choses. Amen. Et ça évite beaucoup de choses mauvaises. Et alors, quand nous parlons avec notre relation avec Dieu qui est personnelle, Dieu va nous enseigner à pratiquer les relations fraternelles, parce que c'est tout un art. Amen. Les relations fraternelles, c'est tout un art, c'est tout un enseignement. C'est pas simple, mais c'est tout enseignement. Et nous allons apprendre à vivre ensemble. Amen. On apprend à vivre ensemble. Et ça s'apprend. Parce que c'est pas acquis comme ça. Des fois, on a été tellement loin, on a été tellement blessé, on a été tellement rejeté qu'on blesse tout le monde. Parce qu'on a été aiguisé pour tailler. Donc, qu'on blesse. Et Dieu, c'est pas parce qu'on a passé une vie très difficile que Dieu ferme les yeux sur notre comportement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'on a vécu un passé dur qu'on peut se permettre de faire n'importe quoi envers nos frères, parce qu'on en a souffert. Donc Dieu ne ferme pas les yeux. Amen. Mais il nous apprend, chacun, selon son niveau, sa situation, à vivre ensemble. À vivre ensemble. Et un conseil qu'il nous donne souvent dans sa parole, c'est d'être authentique. D'enlever le masque. Donc d'être authentique devant notre frère et devant notre sœur. Amen. D'être authentique. Et après, si des relations étaient brisées entre nous, le Seigneur nous conseille de les restaurer. Le conseil, c'est pas de quitter l'église. Parce que si tu le fais, tu vas te heurter à quelqu'un là-bas, parce que Dieu veut toujours tailler son caractère là. Et tu vas quitter cette église. Tu vas aller là-bas. Dieu va amener un autre pour tailler ce qui n'est pas fait et tu vas quitter cette église. Et tu vas les faire toutes. Donc, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de se disposer à restaurer les relations brisées. Amen. Des fois, nous ne voulons pas faire le premier pas. Qui c'est qui... On n'ose pas faire... Oh non, mais mon Dieu. C'est pas moi de faire le premier pas, c'est quand même lui. Mais tu as vu ce qu'il a fait. Donc, Des fois, on ne veut pas faire le premier pas.
Mais une fois
qu'il y a des relations qui ont été brisées absolument, il faut s'attaquer à les restaurer. Quoi qu'il arrive. Amen. Quoi qu'il arrive. Et la première chose à faire, tu pries. Tu demandes au Seigneur de préparer le terrain. Tu n'attends pas qu'il fasse le premier pas. Parce que peut-être qu'il le fera pas. Alors que toi, tu veux avancer. Amen. Tu n'attends pas qu'il fasse le premier pas. Toi, tu fais le premier pas. Amen. Toi, tu fais le premier pas. Tu prends l'initiative. Et quand tu es en train de parler avec la personne, tu ne juges pas la personne, tu juges les faits. Tu ne condamnes pas la personne, tu condamnes les faits. Amen. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Il y a quelqu'un dans la salle. Amen. Donc, vous attendez pas qu'il fasse le premier pas. Parce que peut-être que vous, il faut que vous avanciez, parce que chacun avance selon son niveau. Donc, n'attendez pas. Priez pour préparer le terrain. Allez voir la personne et ne jugez pas la personne, jugez les faits. Ne vous jugez pas les uns les autres. Dites seulement, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas, je ne suis pas d'accord avec toi, mais avec ça. Amen. Et jugez et mettez les choses. Des fois, la personne veut ou les personnes veulent trouver le responsable. Pourquoi ? Il faut éviter de trouver le responsable. De toute façon, on sait où il est. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Il faut éviter de trouver le responsable, mais il faut seulement juger les faits. Amen. Et les délaisser. Soyons coopératifs. Soyez coopératifs. Et après, quand Dieu vous a mis dans une famille, dans une église, ce que vous faites... Dans notre famille naturelle, qu'est-ce qu'on fait? On protège notre famille, n'est-ce pas? Un papa et une maman, qu'est-ce qu'ils font? Ils protègent la famille. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils se sentent chez eux et ils protègent la famille. Des fois, quand quelque chose attaque la famille, je dis une famille normale, je ne dis pas une famille dont les pensées, les sentiments ou les émotions ont été détruites. Je dis une famille normale. Donc, les membres protègent la famille. Amen. Les membres protègent la famille. Et donc, Dieu nous récompensera aussi en fonction de comment nous protégeons notre Église. Amen. Parce que la première chose que l'ennemi va faire, il veut détruire l'Église. Quand Dieu a mis Adam dans le jardin d'Eden, il lui a dit de protéger. Amen. Amen. Quand Dieu a mis Adam dans le jardin d'Eden, il lui a dit de protéger l'Éden. Amen. Il a dit de protéger le jardin parce qu'il sait que l'ennemi toujours rôde pour détruire le jardin de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est le jardin où Dieu plante ses enfants. Et donc l'ennemi voudra toujours détruire. Et il nous faut avoir un comportement, un caractère qui protège l'Église. Amen. Qui protège l'Église. On va lire ça dans Éphésiens chapitre 4, c'est peut-être le dernier aujourd'hui. Éphésiens chapitre 4, parce que Dieu va nous récompenser si nous protégeons notre Église. C'est important. Éphésiens chapitre 4, verset 3. On peut commencer par verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Pourquoi Dieu nous demande de nous efforcer? Parce qu'il sait que le terrain n'est pas toujours favorable. Amen. Le terrain n'est pas toujours favorable. Et donc, nous devons nous efforcer à garder... à protéger, à garder le lien, à protéger l'unité. Et des fois, je pense qu'il faut même préférer ne pas avoir raison, mais avoir la paix. Amen. Ne pas avoir raison, parce qu'il y a des gens qui se braquent, qui disent, moi j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison, et finalement, c'est les différents qui ont raison. Donc, des fois, il ne faut même pas avoir raison, mais avoir la paix. entre vous. Alors, vous savez que quand il y a l'unité dans l'Église, le miracle commence vraiment à tomber. Parce que Dieu travaille avec la compassion qui est dans le cœur de chacun. Parce que nous sommes ici tous serviteurs de Dieu. Amen. Et donc, les compassions, les gens, quand il n'y a pas de division, quand il n'y a pas de haine, quand il n'y a pas de friction, les cœurs sont tranquilles. Et l'amour commence à faire des miracles, commence à prier, à intercéder pour les gens. Amen. Commence à intercéder pour les gens. C'est important. Alors, si vous voulez garder le lien de l'unité, il faut refuser deux choses. Amen. Il faut refuser deux choses hein, si on veut vraiment qu'il y ait si on veut l'unité, si on veut que les gens entrent dans cette église et ressentent la présence de Dieu. Si on veut que les gens viennent et ressentent que vraiment Dieu est là et ressentent l'accueil et l'amour, parce que Dieu va travailler au milieu de nous, choisissons de nous encourager les uns les autres et non de nous critiquer. Amen. De nous encourager et non de nous critiquer. Et un chrétien qui veut se sanctifier doit refuser d'écouter les médisances les uns sur les autres. Il doit refuser d'écouter ça. Donc, il doit vraiment dire, non, je ne veux pas écouter ça, je suis gardien du jardin de temps que Dieu m'a donné. Amen. Et prier. Et il faut aussi soutenir le pasteur et les responsables, ceux qui servent. Il faut les soutenir. Parce qu'ils donnent aussi de leur temps. Amen. Ils donnent aussi de leur temps. On peut lire ça, parce que Dieu, il a dit ça, n'est-ce pas? Quand Dieu a dit quelque chose, c'est parce que ça peut arriver que les gens ne soutiennent pas les pasteurs ou ne soutiennent pas ceux qui servent. Ça peut arriver. Amen. Et Dieu, il a dit ça. On peut lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 12. Hein. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. 12 et 13. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Amen. Amen. Donc Dieu nous demande, c'est obéir à Dieu. Tout simplement, c'est faire du bien. Dieu nous demande de soutenir ceux qui servent au milieu de nous. Amen. Et d'aussi soutenir le pasteur. C'est important que nous soyons tous, que nous suivions tous le même Seigneur, la même direction. Amen. C'est très important. Donc, que chacun se motive à pratiquer ce qui est agréable et on récoltera le fruit agréable. Amen. Nous voulons amener des âmes au Seigneur. On doit obéir certains de ses principes. Amen. On doit obéir les principes qu'il met sur notre route. C'est pour ça qu'il nous rassemble pour faire de nous un corps solide, capable de vraiment travailler. Amen. Travailler pour le Seigneur. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Que Dieu nous bénisse ensemble. Donc, comme résumé, nous savons que Dieu nous a conçu pour son plaisir, certainement. Nous savons qu'il nous a amenés dans son église pour un but. Et nous savons aussi qu'après nous avoir donné un but uniforme pour que nous puissions partager l'amour avec nos frères et sœurs et donner. Amen. Ceci dit, les païens, ils ont besoin d'amour aussi. Mais c'est dans l'église que nous sommes formés. Amen. Pour toutes ces personnes. Soyez tous bénis.